Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi à la radio sur RMC, à la télé, RMC Story, canal 23 de la TNT. Nous sommes ensemble pendant 3 heures de direct avec de gros débats aujourd'hui avec Charles Magnin. Bonjour Charles.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
La journaliste Karine Galli est avec nous, bonjour Karine.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Le désormais propriétaire de gîte, Jérôme Lavrieux, ça va Jérôme?
Très bien Estelle, et vous?
Bah ouais, ça a été un bon week-end de l'Ascension Jérôme?
Pas mal, sauf la météo.
Ah oui, mais vous avez fait le plein?
Oui.
Bon bah écoutez, c'est formidable. Et puis nous sommes également avec le grand reporter Baptiste Desmontiers. Bonjour Baptiste.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Dans un instant dans Estelle Midi, on parlera de la plainte de Flavie Flamand contre Patrick Bruel. 7 plaintes au total contre le chanteur. Doit-il se mettre en retrait? Eh bien, vous pouvez réagir au 3216 ou sur le WhatsApp d'Estelle Midi, Charles.
Le 0612 424 424 pour tous vos messages qu'on lit en direct.
On parlera également du comédien Artus qui a monté les marches du Festival de Cannes en jupe et avec un sac à main. Est-ce que vous avez trouvé ça génial ou ridicule? En tout cas, il a pris un torrent de critiques sur les réseaux sociaux, on en débattra à midi et demi. Et puis la proposition de Louis Sarkozy ce matin sur RMC de supprimer le SMIC, pour ou contre, ce sera notre débat de 13h30.
RMC Estelle Midi.
Midi 5 sur RMC et on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est la plainte de Flavie Flamand contre Patrick Bruel. L'animatrice télé a porté plainte pour viol vendredi pour des faits qui auraient été commis en 1991 lorsqu'elle avait 16 ans. Désormais, ce sont près de 30 témoignages et 7 plaintes qui accablent le chanteur qui a décidé de prendre la parole hier pour démentir, Charles.
Oui, dans un texte publié sur Instagram, Patrick Bruel réaffirme son innocence. « Je n'ai jamais forcé une femme », écrit-il avant d'ajouter « Et si j'ai pu heurter qui que ce soit, je le regrette sincèrement ». La justice est donc désormais saisie. La procureure de Paris, Laure Bécquiot, a annoncé hier que toutes les procédures françaises seraient regroupées au parquet de Nanterre. Au-delà des plaintes, il y a aussi des témoignages qui s'accumulent, une trentaine en tout. Dernier en date, celui de Valérie Bègue, élue Miss France en 2008. Il était président du jury lors de mon élection, écrit-elle. Je l'ai vu, je n'ai absolument aucun doute, dit-elle. Rappelons qu'à ce stade, Patrick Bruel est toujours présumé innocent. Il est toujours sur scène, d'ailleurs, 5 soirs par semaine au théâtre Édouard VII à Paris, avant une tournée des festivals programmée cet été. Et dans son post sur Instagram, il annonce, je cite, qu'il continuera à faire son métier.
Patrick Bruel doit-il se mettre en retrait, Karine Galli?
Non, parce que je comprends en fait ce qu'il dit. On est en France, il faut que toutes les victimes présumées soient entendues, soient écoutées, que leur parole ne soit absolument pas remise en cause, parce que malheureusement c'est ce qui est en train d'être fait. On a vu après le témoignage de Flavie Flamand et après le témoignage d'autres personnes qui sont moins connues qu'il y avait des gens qui expliquaient mais c'est pas possible, il y a des photos où on les voit ensemble, etc. Ça c'est du bullshit.
Ça veut rien dire.
Ça veut absolument rien dire. Donc toutes les victimes présumées, elles doivent être entendues, elles doivent être écoutées, elles doivent être crues, et dans le même temps, vu qu'on est en France et qu'il y a la présomption d'innocence, Patrick Bruel lui dit « je veux continuer à faire mon travail » et après c'est la responsabilité de chacun. C'est-à-dire que c'est la responsabilité des gens qui ont acheté des places pour aller au concert. Moi j'ai une très proche amie qui a acheté des places pour le Cirque d'hiver, elle a demandé à être remboursée.
Mais elle ne le sera pas.
Alors pour l'instant elle a pas eu de réponse. Voilà. Ouais. Pour l'instant elle a pas eu de réponse parce que évidemment j'imagine que c'est pas la seule qui demande à être remboursée.
Oui mais il y a pas de raison à être malheureusement. Mais, je veux dire il y a aucune raison valable à être remboursée.
C'est un cas exceptionnel, donc tu peux imaginer aussi que les tourneurs disent les personnes qui ne veulent plus être associées à Patrick Bruel, eh bien elles peuvent être remboursées. Et après c'est la responsabilité des radios. Par exemple moi c'est vrai que j'écoute beaucoup de radios où il y a de la chanson française, Chante France, Chérie FM, Nostalgie. J'ai l'impression, je dis pas que c'est une information. J'ai l'impression que Patrick Bruel n'est plus diffusé depuis quelques jours. Donc c'est aussi aux décideurs de prendre la responsabilité
de boycotter en fait.
Comment ?
De boycotter.
Eh ben en disant voilà, nous on est censé avoir Patrick Bruel en concert cet été par rapport à cette tournée à leur regard. On ne veut plus évidemment mettre en avant un artiste qui est accusé de choses affreuses. Donc on l'enlève. On est chez
Il y a beaucoup d'argent en jeu.
Oui, mais on, oui mais après
il y a des petits festivals qui peuvent mourir en déprogrammant
Patrick Bruel. Là on est dans une autre catégorie, on est sur un potentiel parce que là, on parle de quasiment une trentaine de plaintes. C'est pas une ou deux plaintes, c'est
de témoignages
énormes. De témoignages. Et c'est exactement la même chose pour les radios. Je pense que ceux qui ont le pouvoir de faire avancer les choses, elles doivent prendre ce pouvoir-là et on doit faire les deux. C'est-à-dire écouter toutes les victimes présumées et Patrick Bruel dans le même temps. Il a le droit de faire son travail. C'est la responsabilité de chacun de se présenter ou pas.
Après, Jean Humbert, le cuisinier hein, qui était au Plaza Athénée, avait décidé de se mettre en retrait après plusieurs plaintes pour témoigner. témoignage pour violence conjugale. Il a été licencié par le Plaza, mais il avait fait ce choix. Il disait pour laisser la justice faire son travail et pour pouvoir me défendre. Est-ce que, pour le coup, Jérôme Lavrieux, Patrick Bruel, il doit faire la même chose? Parce que là, il met aussi en difficulté. Alors, évidemment, pour toutes les femmes qui ont porté plainte ou qui témoignent, bah, ça doit être dur de le voir lui continuer son métier. Mais aussi pour toutes les personnes qui, moi, je pense aux comédiens qui sont avec lui au théâtre Édouard VII, aux gens qui ont payé leur place et qui derrière se disent, oh là là, j'ai dépensé 150 euros pour me loger à Paris, je viens de province pour aller voir sa pièce, donc quelque part je suis un peu obligé d'y aller. Ça met un peu tout le monde en porte-à-faux quand même, Jérôme Lavrieux.
Moi je pense que c'est pas à nous de l'obliger à mettre en...
Bah, est-ce qu'il doit s'obliger lui-même? C'est ça la question en fait.
Je pense que de toute façon à la fin il s'obligera lui-même. Il y sera obligé par ses producteurs, par ses managers, par ses co-actionnaires dans son hôtel, par tout ça, il sera obligé de se mettre en retrait parce que ce sera intenable. On n'est pas sûr, il n'est pas poursuivi parce que il n'aurait pas déclaré sa TVA sur ses tickets de concert ou qu'il aurait fait une double billetterie ou ne sais quoi. Il est poursuivi quelque chose qui était extrêmement grave et un comportement qui, s'il a pu être malheureusement toléré au moins par le silence de ceux qui voyaient, n'est plus tolérable maintenant. Et je pense qu'il se trompe en disant « je vais rester ». Parce qu'en fait, il n'anticipe pas assez les choses et à la fin, il sera obligé de toute façon de se mettre en retrait. Et s'il ne le fait pas proprement lui-même, ça va se faire dans de mauvaises conditions pour lui. Même si je tiens à rappeler que la présomption d'innocence est une valeur cardinale. Ça, nous ne sommes pas les enquêteurs des uns et des autres. Nous ne sommes pas les procureurs et nous ne sommes pas non plus les juges. La justice doit le faire, mais il faut pouvoir aussi se défendre. Et on ne peut pas se défendre quand on va envoyer des images à chaque conseil de gens qui vont venir manifester contre lui. Puis on a
pour l'instant, il n'y en a pas et c'est relativement calme. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question, pourquoi est-ce que c'est si calme aux alentours du théâtre Édouard VII? On a vu d'autres comédiens, je veux dire, voir leur représentation, alors qu'ils avaient été innocentés par la justice, leur représentation perturbée par des associations. Par exemple, Patrick Bruel, tous les soirs, il fait sale comble au théâtre Édouard VII. Il a derrière des fans, notamment féminines, qui viennent l'acclamer en disant Patrick, bah ça paraît totalement hallucinant, mais pour l'instant, en tout cas, il fait son travail sans aucun souci. Quoi.
Les seuls manifs qu'il y a eu, c'est devant son hôtel à l'île sur la Sorgue. Ouais. Et effectivement, la différence, parce que moi j'ai beaucoup d'amis, moi je suis fan de Bruel à la base, qui sont allés voir au théâtre. Avant, il allait saluer le public seul, et maintenant il ne va qu'avec les deux autres comédiens. Bah, oui. Et effectivement, la salle est comble.
Donc il les met aussi.
Non, c'est pour éviter de pouvoir être hué. Parce
voilà, exactement. Maintenant, c'est toujours collégial.
Oui, mais donc les deux autres, pardon.
Oui, mais donc ça confirme ce que je dis, c'est qu'au fur et à mesure, il sera obligé de se mettre en retrait. Peut-être de manière moins, il y aura moins de dates, il y aura moins de choses. Et Estelle le dit, les petits festivals, ils peuvent faire faillite si les mairies décident, vous pouvez plus le faire venir. Si c'est lui qui annule sa tournée, il y a un remboursement des gens qui ne veulent plus y aller. Sinon, pourquoi ça fait sale comble aussi? Parce que
tu peux pas être remboursé.
Elle peut pas être remboursée, donc si elle n'est pas remboursée, elle finira par y aller. Donc c'est ça le vrai problème.
Est-ce que la suite, elle est inéluctable finalement, Baptiste Desmontier? Est-ce qu'il va être obligé de se mettre en retrait parce que ce ne sera plus tenable?
Je pense que c'est très probablement ce qui va se passer. Le bruit monte, les plaintes, les témoignages se multiplient. Donc peut-être que jusqu'à présent, il a pu un peu entre guillemets jouer dans le calme au théâtre Édouard VII. Je pense effectivement que c'est assez inéluctable. Moi, je pense alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jérôme. C'est évidemment la justice avant tout. On est dans un état de droit. La justice n'est pas passée. On n'est ni procureur, ni juge, ni avocat. Donc la justice va passer, mais oui, là, en attendant, techniquement déjà, Patrick Bruel, je pense qu'il a de quoi subvenir à ses besoins s'il se met en retrait en attendant. Non, mais je dis voilà, si jamais il s'arrête. Pour donner un peu de calme et de sérénité à la préparation de cette affaire. Voilà, il va pouvoir subvenir à ses besoins. Il n'embarque plus avec lui, effectivement, tous les techniciens, tous les tourneurs. On parle des comédiens, mais il y a aussi plein de gens. Il y a des attachés de presse. Il y a des gens qui travaillent avec eux. Il y a des gens pour qui c'est aussi un métier. Donc, c'est important qu'ils puissent continuer à travailler. Mais d'un autre côté, qui doivent peut-être, au quotidien, se justifier de travailler à côté de Bruel, etc. Donc, je pense que oui, malheureusement, c'est, aujourd'hui, il y a quand même une forme de tribunal populaire, en tout cas une forme de réaction, parce que face au silence qu'il y a eu pendant toutes ces années, il y a une réaction légitime de dire en fait ça suffit. 10 ans, 20 ans de silence, on va pas attendre les 2 ou 3 années que la justice passe. On commence à descendre dans la rue, on commence à crier. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc je pense que oui, c'est inéluctable. Il va devoir ben, peut-être prendre un peu ses distances avec la... Et c'est triste, si à la fin il est innocenté, ce sera dramatique. Mais aujourd'hui, il y a quand même, multiplication de témoignages, et je crois qu'il faut quand même rappeler que aucune femme ne porte plainte par plaisir, aucune femme ne s'affiche face à une personnalité aussi puissante que Patrick Bruel, aucune femme ne prend le risque, je dis aucune évidemment, sauf, on sait pas, mais a priori, personne ne va se mettre dans une affaire comme ça pour quoi ? Pour se donner de l'importance, pour essayer d'obtenir de l'argent, pour... Non, ça n'existe pas. On le sait aujourd'hui. Quelqu'un qui prend le voilà, la dimension de l'affaire.
Le courage.
Le courage.
Il faut du courage.
L'horreur, les proches, parce qu'on parle des proches, des gens autour de Patrick Bruel, mais il y a les proches et les gens autour de toutes ces femmes victimes qui se retrouvent elles aussi probablement et eux aussi voilà dans le viseur et donc voilà donc
voilà, et c'est vrai qu'on entend beaucoup d'avocats, de plaignantes aujourd'hui. Donc la pression, elle devient quand même là intenable autour de Patrick Bruel. Et c'est vrai qu'on le voit mal continuer comme ça, comme si de rien n'était. On a invité Jean-Michel Aubry Journet. Il est éditeur musical. Il est cofondateur de MeToo Music et ambassadeur de MeToo Media. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour. Merci de m'appeler.
Oui, bah écoutez, en fait, on voulait avoir votre avis sur cette affaire et puis aussi vous poser cette question. Pourquoi est-ce que les associations finalement ne font pas plus de bruit, plus de manifestations autour de Patrick Bruel? C'est vrai que on se disait, on est beaucoup à se dire que bah, finalement le chanteur et comédien peut continuer sa carrière sans manifestation, alors que d'autres n'ont pas bénéficié de cette mansuétude.
C'est comme les victimes dans ces affaires, quand elles sont petites et pas très organisées, on va avoir l'impression qu'elles ne sont pas suffisamment importantes. Et puis une fois que Flavie Flamand prend la parole, on a l'impression qu'il y a un énorme barouf médiatique et que tout le monde s'y intéresse. Laisser quelques semaines aux associations féministes pour s'organiser et réfléchir à la meilleure façon d'agir. La meilleure façon d'agir, de toute façon, ce sera aussi d'avoir des grands noms, notamment de la musique et du cinéma, qui se positionnent sur ces sujets, parce que ça fait 2 mois que l'ensemble de l'industrie musicale est silencieuse. Même depuis 2019, si on reprend sur les premières accusations, personne n'a rien dit des accusations sur Patrick Bruel.
C'était deux masseuses.
Non, c'était 5 en 2019. Et l'année dernière, personne n'a parlé de la condamnation de Slimane, qui reprend cette semaine ses concerts à la salle Playel. Donc c'est extrêmement important qu'on réfléchisse bien à la façon d'agir. Ça ne veut pas dire que les associations féministes n'agissent pas, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres façons de faire et qu'on est quand même face à un mastodonte qui est Patrick Bruel. Et voilà, c'est assez important qu'on réfléchisse à la bonne façon d'agir. Je voulais simplement réagir sur deux petits points, parce que je trouve que votre plateau, vous avez été très bienveillant vis-à-vis des victimes, et c'est assez rare à la télévision, donc je voulais souligner deux petites choses. Vous parlez de la justice et de la présomption d'innocence. Je veux rappeler le droit du travail. C'est-à-dire que vous avez parlé des personnes qui ont besoin de travailler, oui, mais elles ont aussi la nécessité d'être protégées. Les personnes qui programment Patrick Bruel sur des festivals, sur des concerts, ils ont la responsabilité de protéger les femmes qui travaillent à proximité de Patrick Bruel, maintenant qu'il y a autant d'accusations et de témoignages contre lui. C'est une obligation de l'employeur. Donc on est.
Alors après, j'ose imaginer quand même pénale. Que Patrick Bruel, là, il ira même plus dire bonjour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait énorme.
Si c'est une technicienne de plateau, si c'est une employée municipale qui doit lui apporter des fleurs, si c'est une bénévole qui travaille sur un festival, Patrick Bruel, il ira où il veut s'il veut aller chercher une victime.
Oui, en fait, vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut protéger les femmes qui travaillent avec lui. Mais vous attendez quoi, vous, finalement, Jean-Michel Aubry Journet, qu'il se mette en retrait de lui-même, que les directeurs de festival le boycottent? Vous attendez quoi exactement?
Alors, moi, je ne compte absolument pas sur le fait que Patrick Bruel se mette en retrait. Il est producteur de sa propre tournée, de façon privée. Il loue la salle et il fait la billetterie avec des partenaires locaux ou nationaux. Mais en fait... D'accord. Il peut tout à fait faire ses concerts. Les gens sont libres d'y aller, de ne pas y aller. C'est leur morale, c'est leur porte-monnaie. Maintenant, les festivals, c'est une autre chose. Ils sont généralement tout à fait subventionnés par la force publique, par des municipalités, par le Centre National de la Musique. Et il y a une moralité de ce qu'on fait de l'argent public quand c'est pour des manifestations et des festivals où on accueille des personnes qui sont quand même accusées d'agressions sexuelles et de viol. Et je vous ai entendu parler des petits festivals. Ouais. Ben, les petits festivals, si vous allez regarder leur programmation, il n'y a pas une seule femme sur leurs affiches. À part le festival des Grandes Marées où il y a plusieurs grandes têtes d'affiches, pour les quatre autres festivals en France qui accueillent Patrick Bruel cet été, il n'y en a pas un qui a plus de deux femmes sur leur affiche. En 2026, c'est inacceptable. C'est des personnes qui sont donc des masculinistes de l'industrie musicale. J'entends. Et qui doivent prendre les conséquences d'avoir programmé Patrick Bruel, dont ils savent depuis 2019. Bah, qu'il y a des cas avérés et des plaintes. Et donc, il ne faut pas qu'ils viennent pleurer aujourd'hui. Alors, parce qu'ils ont décidé de prendre le risque de le programmer lui plutôt que Santa, plutôt que Suzanne, plutôt que Louane, plutôt
j'entends.
Que Pomme.
Ce cochis et tout. Alors, des cas avérés, des cas présumés. En tout cas, Jean-Michel Aubry, j'en ai, car la justice n'est pas passée. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été notre invité et de nous avoir fait entendre votre point de vue. Ça réagit beaucoup sur le WhatsApp également, Charles.
Oui, et vous êtes nombreux à y défendre la présomption d'innocence, comme Raymond qui nous dit, mais il n'a pas arrêté son métier. On est encore dans un état de droit. Il est présumé innocent. Peu importe les témoignages et les plaintes, ce ne sont pas les réseaux sociaux ou le tollé médiatique qui rendent la justice dans ce pays. Vous êtes nombreux à nous envoyer ce message-là, tout comme Jérôme. Il faut se battre pour la présomption d'innocence. On ne peut pas accepter que le tribunal médiatique empêche quelqu'un de faire son travail tant qu'il n'est pas jugé. Et à l'inverse, Ghislaine, par exemple, nous écrit, mais malgré la présomption d'innocence, le nombre de plaintes, le nombre de témoignages, tout ça fait que Monsieur Bruel elle devrait se mettre en retrait. Le temps que la justice agisse, c'est le seul moyen pour que tout le monde soit serein, lui, la justice et les plaignantes.
Nous avons Anne en ligne, elle nous appelle, elle nous a appelé au 3216 depuis la Haute-Savoie, elle est dans le secteur médical. Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Anne, est-ce que vous pensez que Patrick Bruel doit se mettre en retrait après toutes ces plaintes?
Oui, bah pour toutes les raisons qui ont été évoquées par vos divers participants, je pense que dans un souci d'apaisement, il devrait se mettre en retrait. Et puis après, il y a la responsabilité de chacun. Enfin, moi, je sais que j'ai une place pour le mois d'octobre et je n'irai pas. J'ai pris la décision de pas y aller. Déçue, je l'ai vu il y a un an et demi ou deux ans. J'avais fait l'effort. Je m'étais résignée à me forcer à y aller parce que en 2019, donc je devais aller le voir. Et le jour où j'ai porté moi-même plainte contre mon père pour des violences sexuelles sur deux de mes filles.
D'accord.
Et du coup, je le lis à. J'étais déjà déçue à l'époque, c'est où il y avait les deux masseuses là qui avaient porté plainte contre lui. Et puis c'est quelqu'un que je trouvais humain, que je trouvais et ça m'a gâché le personnage en fait.
Vous êtes très déçue quoi en fait, Anne.
Ouais, c'est ça. Parce que je le trouvais vraiment humain, c'est quelqu'un que pas pour juste le côté midinette forcément, et puis du coup il y a deux ans je me suis forcée un peu, soutenue un peu par mes amis, et je vous avouerai que la veille du concert j'ai failli pas y aller, enfin je voulais plus y aller.
D'accord.
Parce que je trouvais mal, enfin. Pour moi, je l'ai trop associé à mon histoire personnelle, forcément. Et là, à nouveau poussé par mes... Et puis après, on se laisse porter par la musique, forcément, un concert.
Ouais.
Et puis voilà, et puis je chante bien, enfin... Et du coup, j'ai repris un billet, mais je n'irai pas, quitte à perdre l'argent, parce que de toute façon, je ne vais pas demander le...
Alors, pourquoi vous ne demandez pas le remboursement, Anne?
Parce que pour l'instant, de toute façon, c'est pas encore fait. Et puis, c'est pas que je vais pas le demander, mais si je dois perdre ces 80 euros, je les perdrai. C'est pas.
D'accord.
Mais je peux pas y aller en fait.
J'entends. J'entends parfaitement ce que vous dites. Merci en tout cas, Anne, de nous avoir livré votre témoignage. Merci beaucoup, Karine Galli. Est-ce qu'il faut justement, vous parliez de votre copine qui a demandé à se faire rembourser une place de concert. Est-ce qu'il faut que, à minima, aujourd'hui, les directeurs des festivals remboursent en tout cas les places de concert de celles et de ceux qui demanderaient à être remboursés, tout simplement, quoi.
Oui, ça c'est la base, parce que là on est sur une affaire qui est immense, qui court sur plusieurs années. Là, si les plaintes, si la justice passe, et que c'est prouvé, on a affaire à un prédateur. Ce n'est pas un cas isolé, ce sont des agressions qui se répètent sur 30 ans, c'est absolument effroyable. Donc, je pars du principe qu'il y a des cas extrêmes, des cas exceptionnels. On est totalement dans ce cadre-là. Moi, mon amie, elle a pas eu encore la réponse, mais ça fait qu'une semaine. Donc voilà, je pense que évidemment, tous ceux qui ont décidé d'accueillir Patrick Bruel dans leur salle doivent rembourser parce que on est sur l'exceptionnel. On n'est pas sur quelqu'un qui a raté son train, etc., ou qui veut plus aller à un concert parce qu'il préfère aller au resto.
Tout voilà. Fait,
donc le remboursement, ça me paraît évident.
Jérôme Lavrieux.
Oui, dès lors que tout est regroupé, toutes les affaires sont regroupées dans un seul pôle qui est à Nanterre, comme l'a annoncé la procureure de Paris hier, il va y avoir l'ouverture d'une enquête judiciaire, donc la désignation d'un juge d'instruction. Le juge d'instruction peut, dès le départ, imposer des restrictions à M. Bruel. Il peut dire, pendant la durée de l'enquête, ça s'appelle le contrôle judiciaire, il n'y a pas besoin d'être condamné pour faire ça. Vous ne pouvez pas vous déplacer librement, vous ne pouvez pas avoir de contact avec telle ou telle catégorie. Quelqu'un qui est poursuivi pour des problèmes d'attouchement sur des enfants, il ne peut plus exercer, même s'il n'est pas jugé coupable. Même s'il n'a pas encore été jugé. Il y a plein de contraintes. C'est à la justice aussi de prendre ses responsabilités en la matière pour éviter tout trouble à l'ordre public. Parce que ça peut pas être à chacun individuellement. Chaque organisateur, on peut pas faire peser sur chacun un cas de conscience, dire j'organise, j'organise pas, etc. Dès lors qu'il y a une enquête générale qui a été ouverte, c'est aussi à la justice de mettre des contraintes s'il y a besoin de le faire.
On n'est pas l'air d'accord, Baptiste Desmontiers.
Je suis embêté par rapport à cette question, justement. Parce que si on écoutait tout à l'heure notre invité qui avait l'air de bien connaître le système de production de Patrick Bruel, qui visiblement est son propre tourneur, loue ses salles, etc. Si vous, effectivement, on peut se dire, j'ai donc techniquement loué directement, acheté mon billet à Patrick Bruel.
Exactement.
Là, je trouve que ce serait normal, effectivement, qui rembourse, que ces sociétés remboursent. En revanche, quand vous êtes un festival, vous avez programmé, vous ne connaissiez pas les faits. Vous êtes un peu coincé, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec un préjudice financier pour une faute que vous n'avez pas vous-même commise. Vous n'avez pas vous-même. Alors oui, il y avait des faits. Et je voudrais pas rentrer dans un truc un peu tendancieux. Il y avait des faits, mais je pense que
des faits présumés.
C'est compliqué pour un directeur de festival aujourd'hui de rembourser les billets d'une personne qui va être parmi.
Et surtout qu'ils ont décidé parfois il y a 2-3 ans en fait de leur avis.
En revanche, ce qui est sûr et certain, c'est que il y a des moyens de pression. On l'entend. Les festivals sont souvent subventionnés par des communautés communautés d'agglomération, des conseils régionaux, départementaux, etc. Il y a des moyens de pression, effectivement, pour à minima faire en sorte qu'il soit pas sur scène, voire trouver des compensations financières. Mais pour ces tournées qu'il organise lui-même, oui, je trouve que ce serait normal que ses fans puissent être remboursés.
Alors, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Oui. Charles, ça n'a pas arrêté de varier durant notre débat.
Vrai. Vous êtes très nombreux à réagir et à voter. Patrick Bruel doit-il se mettre en retrait à ce stade sur nos réseaux? C'est non à 55%, mais ça continue de bouger de minute en minute.
Débat beaucoup plus léger. Dans un instant, dans Estelle Midi, on parlera du Festival de Cannes avec cette image. Artus en train de monter les marches en jupe et avec un sac à main. Ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Artus a été moqué, raillé sur les réseaux, il s'en est plein d'ailleurs. Est-ce que Artus en jupe à canne, vous trouvez ça ridicule ou génial? Eh bien vous nous dites tout dans un instant dans Estelle Midi, à tout de suite.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
Il est midi 31, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi avec Charles Magnin, Karine Galli, Jérôme Lavrieux et Baptiste Desmontiers. Et tout de suite, on s'intéresse à l'image du jour. Et cette image, eh bien, c'est celle du comédien Artus montant les marches du Festival de Cannes en jupe et avec un sac à main. C'était vendredi et cette apparition de l'acteur et réalisateur de Un Petit Truc en Plus a déclenché une vague de critiques et de moqueries sur les réseaux sociaux. Écoutez la réaction d'Artus, justement.
Ce matin, j'ai lu des commentaires sur les réseaux sociaux où les gens sont des fois d'une méchanceté sur des posts, que ça soit sur ma tenue, que sur un autre truc. C'est fou comme les gens, des fois, sont d'une... En fait, ce qui me surprend vachement, c'est les gens qui font ça. C'est Brigitte, 65 ans, sa photo de profil, elle a son caniche dans les mains et elle dit, regarde-le, l'autre gros et qui machin et tout. Et t'as envie de dire, waouh, mais madame, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous ayez autant de haine?
L'image d'Artus en jupe a déclenché un torrent de moqueries. Et pourtant, c'est pas la première fois en fait qu'une star masculine porte une jupe.
En cherchant deux minutes sur Google, j'ai retrouvé par exemple Brad Pitt en 2022 pour la promotion du film Bullet Train. L'acteur s'était affiché dans une magnifique jupe en lin. On pourrait aussi citer Vin Diesel, le chanteur Harry Styles ou encore Mika. Il est pas rare ces dernières années de voir des stars masculines en jupe, notamment sur des tapis rouges. Dès les années 80, Jean-Paul Gaultier faisait défiler des hommes en jupe. jupe. On peut pas dire que le phénomène se soit massivement démocratisé. Hein, on croise pas des hommes en jupe à chaque coin de rue, mais les amateurs de mode, de style, de haute couture osent désormais la porter. L'exemple qui a fait couler le plus d'encre ces dernières années, c'est sans doute celui de Jules Koundé, hein, l'arrière droit de l'équipe de France, qui avait fait sensation à Clairefontaine en arrivant en jupe. Depuis, les looks des footballeurs sont d'ailleurs scrutés avec attention à chaque rassemblement. Mais Jules Koundé assume, quand on est différent, on s'habille un peu différemment. Mais cela, quand cela sort du cadre, les gens aiment bien critiquer. Mais le principal est de se sentir bien dans ses habits.
Et lors du défilé pour les JO 2024, les athlètes français avaient eu le choix, d'ailleurs, de se mettre en pantalon ou en jupe. Il y avait Sacha Zoya, le hurdleur, qui avait choisi justement de porter une jupe. Alors, Artus en jupe à Cannes, est-ce que c'est ridicule ou génial, Baptiste Desmontiers?
Ce qui est ridicule, c'est qu'il y ait des réactions comme celle-ci, qu'il y ait des réactions de haine, des réactions de colère. De...
Ça vous étonne, vous?
Mais moi, ça, non, ça, mais, alors non, que les abrutis sur les réseaux sociaux pullulent, ça c'est bon, j'en fais des frais moi aussi. Donc, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a encore des gens que ça choque de voir Artus en jupe, parce que comme l'a dit Charles, il y a déjà eu des précédents. Et surtout, moi j'ai l'impression que c'est l'histoire que ma mère me racontait. Ma mère me racontait dans les années 68. Quand elle mettait, enfin, il y avait un truc de les femmes en pantalon, c'était un peu waouh, c'était révolutionnaire.
Oui.
Non mais à l'époque, il y avait un truc dans certains milieux, c'était révolutionnaire. Une femme en pantalon, c'était pas très bien vu. Putain, c'était il y a 45-50 ans. Et aujourd'hui, on continue à avoir les mêmes débats. C'est assez marrant parce que j'avais déjà été amené à discuter de cette thématique-là, notamment à propos de différents habits qu'on trouve indécents, etc. Juste une petite liste. Vous connaissez le crop top? Le crop top, cette espèce de t-shirt haut. C'est un habit masculin à la base. Ça vient du football américain, c'est un t-shirt haut. Donc voilà, donc aujourd'hui le fait qu'un homme puisse porter un crop top, c'est choquant, ça vient c'était pour les hommes. Les talons hauts, pareil, les talons hauts, c'était la royauté. C'était sous l'Ancien Régime, c'était les rois, c'était les nobles, les hommes qui portaient des talons hauts. Le vernis, c'est l'Égypte ancienne. Donc en fait, il y a énormément aujourd'hui de distinctions hommes-femmes qui sont des distinctions qu'on a nous-mêmes fabriqué.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un homme porter une jupe, quoi.
Oui, mais
ça.
And so what? C'est pas grave.
Bah non.
C'est techniquement
grave.
Il doit être bien. Je comprends même pas que ça continue à choquer. On voit de plus en plus de garçons qui portent
du... Mais il l'a fait pour qu'on parle de lui. S'il avait pas envie de ça, il aurait mis un costard et puis basta.
Non, il l'a fait parce qu'il a, il a un styliste, il a des gens qui se sont dit, tiens, ça va bien t'aller. Et ça va bien t'aller. En fait, ça va bien t'aller, c'est pas, ça va bien t'aller, cool, on va te repérer. C'est Artus, hein. Artus, il a des boucles d'oreilles,
je le disais
tout à l'heure, il a une espèce de cravate.
Je pense
qu'il
l'a aussi fait pour montrer qu'on pouvait être à l'aise dans n'importe quel vêtement, qu'on pouvait porter n'importe quel vêtement. Il y a un message,
mais ça veut dire qu'il faut continuer à militer pour faire passer ces choses-là. Moi, je vais vous dire, ce qui me choque, je l'ai vu ce week-end sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu un nombre de nobody d'influenceurs avec des sapes absolument dégueulasses. Je vais pas citer leur nom, je vais encore m'en prendre plein la tronche. Qui sont invités sur les réseaux, à Cannes, sur le tapis rouge, qui montent les marches.
Il y a plein de
des gens qui ne sont pas
invités
du tout du milieu,
voilà,
et qui sont très, 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 très mal habillés. Moi, ça me choque.
Il y a
le mec qui fait de la musculation, qui t'habille avec un
festival.
Truc dégueulasse. Moi, je trouve ça absolument moche. Ouais.
Il y avait Jean-François Copé, Laurent Berger, Nadia Valo-Belkacem. Jean-François Copé, il est maire de Meaux, il n'est pas maire de Cannes.
Oui, Jean-François Copé, oui, bien sûr. Non, mais je ne dis pas.
C'est une des villes de France où il y a le plus de tournage de cinéma.
Influenceur musculation.
Et vous aussi, Jean-Blavry, vous étiez invité?
Oui, cette année, j'étais invité.
Et pourquoi?
Parce que j'ai reçu une invitation. Demande à celui qui m'a invité.
Mais pourquoi vous êtes invité?
J'ai fait plusieurs fois la montée du festival.
Vous auriez mis une jupe si vous étiez...
Non, pour une raison simple. C'est en fait, je comprends. Il fait ce qu'il veut, je m'en tape. Mais c'est un festival de cinéma. C'est pas un festival pour les recalés de la Fashion Week qui avait toute l'occasion de mettre tout ce qu'il voulait à ce moment-là.
Et t'y vas
pour ça.
Mais c'est là qu'on va le voir le plus. C'est logique.
Mais sauf que cette montée des marches, c'est devenu n'importe quoi. Je l'ai fait une fois la montée des marches. On m'avait dit faut mettre un smoking. J'ai loué un smoking parce qu'on n'avait pas de smoking. J'ai monté les marches. Je trouvais ça vachement bien. C'est sympa pour l'ego. Les mecs, ils photographient n'importe qui. Un chien avec des bottes, il a le droit à être mitraillé par des photographes. Faut juste pas penser que c'est pour soi que ça crépite. Mais en fait, j'y suis allé pour voir un film. Et en fait, je me suis rendu compte qu'arrivé en haut des marches, il y a plein de gens qui redescendent tout de suite.
Ils vont
pas dans la soirée, etc.
Jérôme, hein.
Moi, je suis plus de province.
Je suis désolé.
Je pensais que tu allais pour au moins avoir la décence de rester.
C'est comme une avant-première, les acteurs, ils viennent faire leur speech avant, puis après ils se barrent.
Et parfois, ils reviennent juste à la fin.
Ce qu'il faut dire aux gens qui critiquent, qui gueulent, comme ceux qui trouvent ça génial, ça n'est que de la com.
Bah oui, c'est un spectacle. Donc il a raison de se mettre en jupe.
Ça n'est pas, mais il se met en jupe ou il se met tout nu, je m'en fous. Mais c'est pas
c'est du
cinéma.
C'est pas toléré tout nu.
Voilà.
Bah, oui, oui, il y a quand même des codes.
Après, le fait qu'il se mette en jupe, écoutez, je suis pas choqué quand je vois le roi d'Angleterre se mettre en kilt pour assister à une manifestation publique. J'ai regardé ce week-end une série sur Netflix.
Oui.
Sur Jésus et sur la période. Il n'y a pas un mec en pantalon, ça n'existait pas.
Oui.
Donc ça n'est pas choquant.
Je ne vois pas le rapport, mais.
Bah si, il y a la moitié de l'humanité qui ne met pas de pantalon.
Toujours
je suis désolé.
Des hommes en jupe,
donc c'est pas choquant.
Voilà.
Mais Charles, en fait, c'est un détournement du film, du festival du film. Voilà.
Karine Galli, vous, ça vous a amusé vous avez trouvé ça stylé, on va dire, ou au contraire, vous avez trouvé ça nul?
Non, moi je trouve que c'est bien l'originalité. J'aime l'originalité sous toutes ses formes. Je l'avais dit pour Jules Koundé, je le trouve que c'est la même chose pour Artus. Après, il y a un dress code, c'est-à-dire qu'il faut être élégant à prêter. Est-ce qu'il arrive négligé?
Non.
On peut aimer ou ne pas aimer, c'est le goût de chacun, mais on voit bien qu'il y a un effort. Il a une jupe plissée, il a un pantalon, il a un haut de costume, donc il n'est pas arrivé débraillé sur les marches. Il a choisi cette tenue-là, et moi je trouve que évidemment, il faut respecter l'envie de chacun. Je veux dire, le goût, c'est ce qu'il y a de plus subjectif au monde. Tu peux aimer, tu peux pas aimer. Moi, j'aime l'excentricité et je trouve que voilà. À partir du moment où ce qu'on demande au Festival de Cannes quand tu fais une montée, c'est-à-dire de mettre en avant quand même le fait que c'est un événement unique regardé dans le monde entier, c'est ce qu'il fait. Parce que il est apprêté, il a un costume, c'est effectivement ses stylistes ou son équipe qui lui ont trouvé, qui lui ont fait plusieurs propositions. Donc voilà, c'est pas deux minutes avant la montée des marches où il s'est mis un sac poubelle sur la tête et il a dit ça y est, je monte. Donc voilà, c'est réfléchi et je trouve ça fou, mais qu'on fasse des polémiques pour tout et rien. C'est comme par exemple Kristen Stewart, je sais pas si c'est comme ça son nom de famille.
Je sais pas de qui vous parlez.
Mais oui, celle qui jouait dans Twilight.
Ah oui, Kristen Stewart.
Voilà. Donc elle a été critiquée une fois parce qu'elle a fait la montée des marches et normalement les femmes sont obligées d'être en talons hauts sinon elles sont regardées de travers. Mais c'est complètement aberrant. Elle était extrêmement chic sauf qu'à un moment elle en pouvait plus de porter des talons hauts parce qu'elle avait mal aux pieds. Donc elle a fini pieds nus. Ben, je trouve ça fou qu'on soit encore dans le diktat de les femmes sont obligées d'avoir des talons hauts parce que c'est plus élégant et les hommes sont obligés. Tu vois, c'est archaïque. Tu peux être très élégant en étant avec des chaussures
plates. En jupe et pieds nus quoi. Voilà.
Non mais en étant avec des chaussures plates. Là, elle a fait la montée hier, elle avait des Converse, on les voyait pas parce qu'elle avait une robe longue.
Oui.
Ça dérange qui? À partir du moment où tu fais un effort d'être habillé, d'être apprêté, c'est tout ce qu'on demande quand même sur ces marches.
Alors, nous avons Eric.
Il se fout de moi depuis tout à l'heure.
Mais non, mais c'est sur Kirsten Stewart et pas Kristen, je crois.
Oui,
enfin bon, vous avez compris.
Oui,
voilà,
l'actrice très connue de Twilight.
C'est Kristen. Bon, Eric, là c'est plus simple, est avec nous. Il nous appelle de Montélimar, il est conducteur de travaux. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tout le monde.
Eric, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont raillé Artus pour sa jupe ou pas du tout?
Là, je suis au bout de. Je suis au bout de ma vie. J'irai pas mettre quelque chose de méchant sur les réseaux. Il y a pas de c'est pas mon truc. En plus, j'adore Artus. J'adore ce qu'il fait. Mais là, quand même, on parle de Cannes, des marches de Cannes.
Ouais.
Là, l'élégance, il y était pas du tout. Il est pas du tout.
Vous le trouvez pas élégant, vous?
Ah non, mais pas du tout. Là, si vous voulez faire un petit clin d'œil aux femmes, il fallait qu'il aille dans des festivals qui représentent la femme.
Là, c'est aussi. Je pense qu'il y a aussi. Il a fait un film donc qui s'appelle Un petit truc en plus sur l'inclusion. Voilà, qui a cartonné il y a quelques mois. Là, il est aussi sur le fait de. C'est une autre inclusion, mais le fait de dire que tout le monde peut s'habiller comme
barrière.
Il le veut en fait, et qu'il n'y a pas. Il y a pas lieu de critiquer les uns et les autres pour un habillement en fait.
Moi,
je le vois comme ça.
C'est que moi, je critique pas. Il s'habille comme il veut et chacun est libre et tant mieux. Mais moi, c'est l'image par rapport aux marches de Cannes, quoi. Moi, je suis plutôt vieille France. Moi, je revois encore des Alain Delon et compagnie qui venaient en smoking.
Oui.
Les femmes étaient splendides avec leur grande robe, leurs talons. Dans ce génération-là, on perd un peu quelques codes qui sont essentiels. Vous voyez, quand vous allez voir un banquier, si vous arrivez voir votre banquier, il est en robe. Ben, vous allez.
Bah, moi, j'y vais en basket, voir mon banquier. Oui. Ça
c'est le taux du prêt
hein.
qui nous intéresse.
Oui, je il regarde mon compte en banque, en fait, le reste, ils s'en foutent. Hein.
Moi, je suis allé voir en costume, il ne m'a pas donné mon prêt pour autant.
C'est mon avis. Le banquier, si vous le voyez en costume, il fait sérieux. Il fait sérieux. Mmh.
Il regarde quand même votre compte en banque, hein, Eric. Et à mon avis.
Non, mais
Eric a raison sur le fait qu'aujourd'hui, si votre banquier. Alors, j'ai rien à dire votre avocat. Bon, ils sont en robe, mais c'est une autre manière. Mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, je profession aussi, on se pointe en jupe aujourd'hui. Bah, arrêtez. Mais Baptiste, tu fais comme si. Mais si j'arrivais en jupe sur le plateau, tout le monde le noterait. C'est pas banal, c'est pas classique.
Oui, on noterait. Différence.
Bah, c'est pas un no-go. C'est-à-dire que l'élégance, le fait que le Festival de Cannes soit lié à une forme d'élégance, ça, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que.
Et une forme d'extravagance aussi.
Une forme d'extravagance. Mais derrière, il y a des endroits cornerisés. Quand tu es journaliste, tu vas à l'Élysée, tu es obligé d'être habillé un minimum. Mais moi aussi, monsieur, il disait qu'il était de la vieille France, notre auditeur. Moi, je suis de la vieille France aussi. Je suis une famille d'aristocrates, de vieux français. Je suis tatoué avec des perroquets en couleur sur le bras, j'ai une boucle d'oreille.
Ah oui,
évidemment que moi aussi, ça a pu choquer. Et pourtant, les tableaux de mes ancêtres, ils ont des boucles d'oreilles et ils sont maquillés. C'est donc vrai. En fait, la vieille France, pardon, il y a des endroits où il y a des codes vestimentaires, mais l'extravagance n'est pas forcément en opposition avec l'élégance.
En tout cas, merci Eric d'avoir appelé pour nous donner votre point de vue. Voilà, Eric qui n'aime pas la tenue d'Artus. On est également avec Gilles qui est cariste du côté de Châteauneuf dans l'Isère. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Et alors Gilles, vous faites partie de ces hommes qui portaient des jupes en fait, Gilles.
Exactement.
Et vous en portez à quelle occasion, Gilles?
Alors j'en porte pour être déjà bien personnellement.
D'accord. Pour,
voilà, je suis très amateur de kilt, je suis très fan de tout ce qui est robe celtique et choses comme ça. J'estime que autant des Romains, on avait des chupettes et on n'avait pas l'air ridicule. Ça pouvait faire très habillé. Moi, j'ai plusieurs kilts, dont des kilts d'apparat, des kilts pour écossais, des choses comme ça. Et je trouve que ça représente aussi bien en fait qu'un smoking ou choses comme ça.
Mais vous sortez dans la rue en kilt d'apparat, par exemple, Gilles, ou c'est uniquement pour les soirées précises?
Ça va être pour des soirées précises, mais sinon, ça peut être aussi pour mon bien personnel et puis et pour être bien tout seul. Je trouve que ça présente aussi bien que autre chose. Voilà.
Mais Gilles, vous êtes cariste. Est-ce que vous pourriez aller au boulot en kilt?
Oui, vu que j'étais embauché, oui, je pouvais y aller en kilt du moment où je travaillais, en fait, avec ma tenue de travail.
Mais vous ne l'avez jamais fait?
Oui.
Ah. Et on vous a dit quoi?
On n'a rien dit du tout.
Ok, bah super. Écoutez, bah ça veut dire que là, pour le coup, on a l'esprit très ouvert à Châteauneuf, dans l'Isère. Bah c'est très bien. Hein, si les hommes peuvent maintenant aller en kilt au bureau ou au travail sans qu'on leur fasse la moindre réflexion, ça veut dire que les mentalités ont
avancé. C'est très bien aussi que les femmes, parce que nous, on est quand même constamment jugés sur notre tenue. C'est-à-dire que quand on vient en combinaison, il y a toujours un abruti qui dit « Tu vas me faire le plein, etc. »
Oui, c'est...
Non, mais c'est vraiment la... Pardon ?
Ça se fait encore ?
Bah, évidemment. Alors là, je mets tout le temps des combinaisons et j'en ai toujours un âne qui débarque et qui me fait sa vanne pourrie.
Donc, en fait, vous l'avez déjà faite aussi.
Sûrement, c'était minable. Mais donc, en fait, à partir du moment où tu respectes juste une tenue qui est jugée décente, c'est-à-dire que là, sur les marches, il n'est pas en jean basket, ce qui est interdit par rapport au dress code, et ben tout est acceptable. Et donc nous aussi, les femmes, ça serait bien que on nous juge pas à chaque fois par rapport à notre tenue, parce que franchement, mais qu'on soit à l'antenne ou pas, t'as toujours des réflexions dès que tu es un peu original, entre guillemets. Ce qui n'est pas non plus une folie de venir en combinaison
non.
Au boulot. Hein.
Non, non, bah non. Merci Gilles, en tout cas, d'avoir été avec nous. On termine avec des messages sur le compte WhatsApp d'Estelle Midi.
On va terminer avec le message de François qui nous dit « Tiens, j'avais raté la montée des marches cette année, le Festival de Cannes. Artus a réussi son coup. Au moins, on parle de lui. »
Et voilà.
Et oui, l'image fait le tour. Et puis Jérôme nous dit « Il fait vraiment ce qu'il veut. Jupe, pantalon, tant qu'il ne vient pas en pantacourt. » Voilà, ça c'est là.
Ah, d'accord.
Mais c'est attendez, mais ça revient le pantacourt. On appelle ça. D'ailleurs, on n'appelle pas ça le pantacourt. On appelle ça le capri. Voilà.
Oui, et c'est capri, c'est fini. Hein,
mais c'est très à la mode. Bah, écoutez, les plus grandes stars à Hollywood reportent le pantacourt capri.
Mais vous allez voir les hommes.
On a l'image du pantacourt avec le fil qui pend.
Raphaël Nadal portait des pantacourts et c'était très bien.
C'est intéressant.
Comme quoi, le bon goût est subjectif.
Ça sent le débat avant l'été dans Estelle Midi. Je le pressens.
Je suis pour le pantacourt, mais sur Raphaël Nadal. Sur Raphaël Nadal. Bah non, pas sur vous. Enfin, je veux dire, vous pouvez. Mais c'est mieux sur Raphaël Nadal.
Jamais. Oui. C'est interdit dans mes gîtes, les pantacours.
Droit de fumer, mais interdit aux pantacours. Super.
En attendant, Artus en jupe au Festival de Cannes. Est-ce que c'est ridicule ou génial? On vous a posé la question. Bon, sur nos réseaux, vous n'êtes pas fan. Hein. Ridicule à 78%. On n'est pas prêt pour la jupe. Hein, sur les
pas encore, mais ça va venir. Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès. Et puis ensuite, ce sera le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC avec plein de débats. On se demandera si Canal+ a raison de boycotter les acteurs anti-Bolloré. Et puis, on parlera de la sortie de la montre Swatch avec Audemars Piguet. Cette sortie qui tourne au chaos. Est-ce qu'on est devenu débile, franchement? Eh bien, on se posera la question. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 51, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi. Et tout de suite, on n'arrête pas le progrès avec Eva Jacquot.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Eva, aujourd'hui, on va parler des data centers. Data centers, ce sont ces immenses centres de données, toujours plus grands, qui s'installent dans les villes. Mais bientôt, chaque foyer pourra avoir son propre data center. C'est-à-dire qu'on pourra tous avoir un data center chez nous, Eva.
Oui, c'est ça, dans votre jardin. Ce sera peut-être bientôt possible. Mais en tout cas, joli. Ici, pour l'instant, c'est vraiment aux États-Unis que ça se passe. Derrière cette idée, c'est une start-up californienne qui s'appelle Span. Elle est spécialisée dans la construction de panneaux électriques intelligents. Eh bien, elle a réfléchi à la création d'un réseau de micro-data centers qui serait installé dans les habitations et qui fonctionnerait en synergie pour offrir une puissance de calcul équivalente à celle qu'on trouve dans les gros data centers. Alors visuellement, à quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble à une énorme machine blanche, un peu comme les climatiseurs que vous avez accrochés aux maisons. Voilà, c'est un peu la même chose. Et donc, ça va de pair avec un tableau électrique que vous avez à l'intérieur de chez vous. Et tout est piloté à distance. Ça s'appelle des nodes. Alors, c'est très sérieux puisque cette start-up s'est d'ailleurs alliée à Nvidia pour ajouter à l'intérieur des processeurs.
Mais est-ce que ce sera suffisant pour remplacer les data centers géants?
Non, pas forcément, mais c'est vraiment un complément, c'est une solution de plus face à l'explosion des demandes pour les besoins en intelligence artificielle, puisque selon l'Agence internationale de l'énergie, eh bien, les data centers pourraient représenter jusqu'à 4% de la demande mondiale d'électricité d'ici à 2030, sachant que dans les habitations, eh bien, on utilise la moitié de ce qu'on pourrait utiliser en électricité, eh bien, ces mini data center utiliserait l'énergie, l'électricité restante. L'avantage, c'est qu'aussi, ça coûtera moins cher à mettre en place que les énormes data centers. Donc, c'est un gain économique. Et puis, il faut savoir que c'est vraiment sérieux puisqu'ils sont en train de l'installer dans une centaine de maisons dans un lotissement aux États-Unis avec un promoteur immobilier. Et l'objectif, c'est d'en installer 80 000 dans tous les États-Unis.
Et la question que tout le monde se pose, Eva, c'est combien ça nous rapporte? C'est-à-dire que si je mets un data center chez moi, ce truc moche qui ressemble à un climatiseur dans mon jardin, ça me rapporter combien?
Eh ben, ça peut vous faire des économies puisque ça vous permettra de dépenser $150 par mois, là en l'occurrence, voilà, aux États-Unis. Pour tout ce qui est électricité et Internet, c'est quand même moitié moins que ce qu'on dépense en moyenne aux États-Unis. Ça, c'est selon les premiers scénarios qui ont été faits. La start-up s'est même proposée de prendre en charge parfois carrément la moitié de votre dépense en électricité ou Internet.
Voilà,
ça, c'est pas mal. Et en échange, bien sûr, votre maison, elle devient un petit maillon de l'intelligence artificielle pour le cloud mondial. Alors, il faut quand même convaincre les copropriétés puisqu'il y a quand même des freins. Parce qu'apparemment, cette machine, elle est très bruyante. Donc c'est un point quand même négatif.
Bah, au fond du jardin,
gros point négatif.
Ou sur le toit, elle est
sur le toit, éventuellement. Et puis aussi, on ne peut pas exclure le risque de vol puisque ce qui coûte à l'intérieur, ça coûte extrêmement cher. Ah. Voilà, les data centers, ils sont ultra sécurisés.
Là, c'est vol de data center.
Et puis, autre chose aussi, la question de la cybersécurité. Ouais. Là, les data centers sont ultra protégés. Là, il faudra vraiment garantir la sécurité.
On va pouvoir se chauffer avec des data centers. Ouais, ça dégage énormément de chaleur. C'est un vrai enjeu. Je suis sûr qu'on va pouvoir se chauffer bientôt avec des data centers.
On n'est pas encore prêt, quoi. On n'est pas.
C'est les nouveaux panneaux solaires.
Si, si, y a des...
Donc on n'est pas prêt. C'est bien ce que je disais. Merci beaucoup, Eva Jacquot, d'avoir été avec nous. On n'arrête pas le progrès tous les jours, midi 50, dans Estelle Midi. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. On parlera de Canal qui boycotte les acteurs anti-Bolloré. On parlera de cette sortie très mouvementée de la montre Swatch avec Audemars Piguet. Et puis, évidemment, l'Eurovision. Bon, comme d'habitude, on a échoué. On est 11e, on vous expliquera pourquoi. À tout de suite.
RMC. Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.